Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Alors nous allons partir explorer le monde des hormones thyroïdiennes, sexuelles, de croissance et bien d'autres encore. À quoi servent-elles et que se passe-t-il quand tout cela dysfonctionne? Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Emmanuel Lecornet-Socol. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur, vous êtes endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'auteur du livre « Et si c'était hormonal chez Hachette Bien-être ?» Alors des hormones, j'ai bien compris, on en a plein de différentes en nous, mais une hormone à la base, c'est quoi?
Une hormone, c'est un messager. Donc en fait, dans notre système, on a beaucoup de systèmes de messagerie. Et l'un des plus importants, ce sont les hormones, donc qui sont fabriquées par des organes spécialisés qu'on appelle les glandes. Et la particularité des hormones, c'est de circuler dans le sang. Et donc, elles vont apporter un message. Par exemple, l'hormone de croissance, qui est fabriquée dans le cerveau par une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, elle va aller passer dans le sang et elle va aller dire, par exemple, aux os de grandir. Pendant l'enfance.
Moi, il s'est arrêté vite le messager, malheureusement.
Ouais,
on ne va pas tout détailler, docteur Lecornet-Socol, mais ça sert à quoi dans notre organisme, par exemple, ces hormones? Donc, on a compris pour l'hormone de croissance, mais il y a vraiment des fonctions qui sont très, très variées selon les hormones. Ça va de quoi à quoi, pour donner une idée?
Alors, bah, par exemple, il y a les hormones sexuelles qui vont permettre d'avoir de la libido, d'avoir l'ovulation pour les femmes ou d'avoir des spermatozoïdes pour les hommes. Et vous allez également avoir les hormones thyroïdiennes qui régulent le métabolisme. Métabolisme du corps, donc c'est-à-dire la façon dont l'énergie va être gérée dans le corps, la température du corps,
le poids,
le rythme
aussi,
cardiaque, le poids. Alors sur le poids, là, il y a encore d'autres hormones qui vont jouer, par exemple la leptine. Et puis, vous allez avoir les hormones du stress.
Cortisol.
Le cortisol, l'adrénaline.
Vous le connaissez, celui-là?
Oui, je crois que je suis bourrée de cortisol, moi.
Mais heureusement, c'est très utile. Il nous en faut quand même un peu pour pouvoir justement affronter toutes les difficultés de la vie.
Bien sûr. Alors, toutes ces hormones, est-ce qu'elles sont toutes essentielles? Parce que dans votre livre, on fait la connaissance de 18 d'entre elles. Mais lesquelles sont véritablement vitales?
Alors, celle qui est la plus vitale, c'est une qui a une des plus mauvaises réputations, c'est l'insuline.
Ah.
L'insuline, on la connaît tous, on a tous des gens autour de nous qui ont du diabète, qui se font des piqûres et ça fait très peur, des hypos, des hyper. Mm-hmm. Mais en fait, elle est essentielle parce que si on n'en a pas, on ne peut pas utiliser le sucre qui est notre source d'énergie. Donc si vous ne pouvez pas avoir d'énergie, si vous ne pouvez pas utiliser l'essence, eh bien, le corps s'arrête.
Donc l'insuline, donc, hyper important.
Hyper importante. Le cortisol dont on parlait tout à l'heure est aussi très important parce qu'on est tout le temps confronté à des stress. Par exemple, si vous avez une maladie, si vous avez un accident ou le matin, même quand vous vous levez pour pouvoir affronter la journée, il faut pouvoir réagir à ce stress et mobiliser tout le corps. Il ne faut pas oublier qu'en fait, on est ici aujourd'hui parce qu'on a réussi à survivre à une époque où on était dans le froid, où on avait faim.
Mais des animaux sauvages qui voulaient nous manger.
Exactement, oui, il fallait nous aussi nous battre pour pouvoir avoir à manger, pour pouvoir survivre, pour pouvoir élever nos petits.
Et heureusement qu'on avait du cortisol alors.
Et heureusement qu'on avait du cortisol. Et il y en a une qui s'appelle aussi l'adrénaline, qui est celle qui nous fait réagir très très vite. Alors elle, c'est vous vous retrouvez face
en danger,
à un gros lion dans la savane, et il faut courir très vite pour se protéger.
Bon, on a compris, il y en a de nombreuses, plus ou moins essentielles, plus ou moins vitales, mais au total, il en existe combien dans l'organisme? En fait, même si on ne va pas parler de toutes, mais c'est juste pour avoir une idée.
En fait, il y en a plusieurs centaines dans notre corps. Et on en a quelques dizaines, à peu près une cinquantaine qui sont assez bien connues. Et donc les 18 dont on a parlé, enfin voilà, à peu près une vingtaine où il y a vraiment des maladies qu'on connaît bien, qui sont plus ou moins fréquentes et qu'on peut essayer de soigner, et parfois de guérir, ça dépend des situations.
Elles sont fabriquées où nos hormones dans notre corps? Qui s'en charge?
Il y a des organes spécialisés, donc par exemple la thyroïde qui fabrique les hormones thyroïdiennes, les surrénales qui fabriquent le cortisol, l'adrénaline.
C'est où les surrénales dans l'organisme?
Alors, c'est deux petites glandes qui sont juste au-dessus des reins.
D'accord, dans notre dos.
Exactement.
Plutôt, au niveau des hanches, quoi, on va dire, à l'arrière.
Exactement,
quoi,
en forme de chapeau. D'accord. C'est rigolo, elle chapeaute les reins. Les reins, c'est en forme de haricot, et juste au-dessus, vous avez deux petits chapeaux. D'accord. Et puis, même dans d'autres organes qui ne sont pas des glandes, a priori, il y a aussi des cellules qui fabriquent des hormones.
Par exemple?
Donc, par exemple, dans l'intestin, vous avez des cellules qui fabriquent des hormones. Dans la graisse...
Ah, ça a du bon finalement la graisse quand même.
Exactement. Ouais. Des cellules qui fabriquent la leptine, la diponectine, qui sont aussi des hormones qui
vont
contrôler
l'appétit. Donc c'est pas que dans le cerveau, hein, y en a un peu partout.
Voilà, et dans le cerveau, alors on a ce qu'on appelle des neurohormones. Donc c'est des hormones qui vont permettre de communiquer, notamment qui vont jouer sur nos comportements et nos émotions.
Dans le cerveau?
dans le cerveau.
Bah, génial. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que les hormones, ce sont des moyens de communication entre les organes, c'est ça ?
Exactement. C'est un espèce de super réseau social.
Très bien expliqué. Merci, docteur Lecornet-Socol. On reste encore ensemble. Dans quelques minutes, on va faire un petit tour de nos hormones. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'adrénaline, mais savez-vous réellement quelle est sa fonction sur vos organes ? Quelles sont les hormones qui peuvent perturber notre libido ou encore notre appétit ? Comment savoir qu'on a peut-être un problème hormonal ? On va tout vous expliquer sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et on s'intéresse surtout à nos hormones aujourd'hui. On en a des dizaines en nous qui font un travail remarquable pour notre santé, pour que notre santé soit bien équilibrée, mais parfois ça déraille. On en parle avec le docteur Emmanuel Lecornet-Socol, endocrinologue et l'auteur du livre « Et si c'était hormonal ?» chez Hachette Bien-être. Alors docteur, on va pas pouvoir parler des dizaines, vous avez même dit des centaines d'hormones qu'on a en nous et dont vous détaillez pour certaines le fonctionnement dans votre bouquin, mais on en a pioché quelques-unes et on va faire le tour ensemble. On va commencer par une dont le nom est assez connu, même si en réalité on ne sait pas vraiment quel est son rôle. C'est l'adrénaline, l'hormone du danger, c'est bien ça ?
Exactement, c'est l'hormone de la réactivité. Donc c'est je suis sur le point de tomber, et en fait je vais me rattraper, je vais avoir des mouvements, je vais être très rapide. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle va envoyer des signaux extrêmement rapides à mes yeux, à mon cerveau, pour que tout de suite j'adopte l'attitude pour pouvoir me rattraper.
Action rapide, quoi. C'est l'Usain Bolt de l'hormone, quoi. Celle-là,
exactement.
Vraiment...
C'est ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un espèce de presque de pouvoir surhumain à pouvoir courir très vite ou s'échapper d'une situation de danger.
C'est celle-ci qui est fabriquée dans nos reins, c'est ça ?
Dans nos surrénales. Ouais, les surrénales, c'est les petites glandes juste au-dessus des reins, en forme de chapeau.
Et elle agit sur quel organe ?
Et elle agit alors par exemple sur les muscles.
D'accord.
Donc elle va faire que les muscles vont pouvoir se contracter plus rapidement. Elle agit sur le cœur, elle va le faire battre aussi plus vite. Elle agit sur nos poumons pour qu'on ait plus d'oxygène qui arrive et qui nous permette de donner de l'énergie pour pouvoir avancer.
C'est quand même une super hormone celle-ci. Mais parfois, ça peut dysfonctionner, j'imagine, du côté de l'adrénaline également. Je crois qu'on peut en avoir trop parfois. Dans quelle situation ça arrive ?
Alors il y a une maladie très rare où on peut avoir une petite tumeur au niveau de la surrénale. Ça s'appelle un phéochromocytome. Donc c'est une maladie rare, mais qu'on peut soigner. En fait, il suffit d'enlever la tumeur et on peut en guérir.
Et ça donne quoi, trop d'adrénaline dans l'organisme ?
Alors ça donne en fait des crises d'hypertension très très importantes, avec des malaises où on devient très pâle, où on a des sueurs, où on peut même parfois perdre conscience.
Mais heureusement, c'est très très rare.
C'est très rare, c'est très rare.
Mais on peut en manquer ou pas d'adrénaline ?
Alors en fait, chez les gens, il y a des gens parfois qui ont des maladies des surrénales qui sont détruites. Et effectivement, en fait, finalement, on arrive à survivre sans. En fait, on en a d'autres qui sont fabriqués. On a une cousine qui s'appelle la noradrénaline
qui prend le relais, c'est ça ?
On prend un peu le relais, oui.
Bon, mais c'est une grande famille, on est content. Il y a des cousines aussi qui prennent le relais, c'est parfait. On va passer à ma préférée, c'est celle du bien-être, la dopamine. Racontez-nous d'où elle vient, elle est située où, comment elle agit dans le corps.
Alors la dopamine, donc, c'est une neurohormone qui est au niveau du cerveau. Donc c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone du bien-être, celle qui fait qu'on se sent bien.
Julien en a beaucoup, je suis sûre.
Donc c'est par exemple, vous prenez un carré de chocolat et là vous êtes envahi de bien-être. Donc vous avez un grand pic de dopamine qui satisfait votre cerveau. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vouloir reprendre un autre carré de chocolat.
C'est là qu'on dit « calme-toi dopamine, s'il te plaît ».
Oui, et en fait, elle se calme, et c'est ça le pire. Et donc, on va toujours vouloir retrouver la première sensation qu'on a eue. Parce que au deuxième carré de chocolat, le pic de dopamine, il va être un peu moins important. Et donc, du coup, on va se dire « bon, je vais recommencer ». Et hop, on refait un troisième, et c'est encore moins important. Et alors, parfois, cette dopamine, c'est elle qui nous entraîne dans nos comportements addictifs.
J'allais vous le dire, quand on est accro donc, au tabac ou à d'autres substances, c'est qu'il y a des règlements de ce côté-là, sûrement.
Nos ados... C'est vraiment typique. Alors, ils sont soumis à leur dopamine. C'est l'influenceur de l'ado. C'est vraiment la dopamine. Et c'est ce qu'ils sont hyper sensibles, les adolescents.
En fait, ils sont pas chiants. Ils sont juste dopés la dopamine. C'est ça.
Et c'est drôle. Mais comment on peut faire pour en sécréter davantage, par exemple, de dopamine ? Parce qu'on a envie d'en être bourré, nous aussi, de dopamine. Je sais pas, vous avez un truc ? Il faut faire quoi ?
Alors, en fait, il faut chercher des choses nouvelles. Et c'est ça qui fait qu'on est attiré par la nouveauté, qu'on a envie d'essayer des choses nouvelles. Donc, on va pouvoir se doper à la dopamine en testant des choses nouvelles. Donc, par exemple, le chocolat, tester d'autres chocolats, tester d'autres choses qui vous font plaisir.
La méditation, le yoga, c'est des choses qui vont faire du bien, ça. Donc
après, pour pouvoir contrôler justement ces toutes ces espèces de pulsions que ça va entraîner en nous. En fait, dans notre cerveau, on a une autre zone qui permet de contrôler, qui est la partie avant du cerveau, le cerveau frontal. Et donc, pour arriver à ce que la synchronisation se fasse mieux, la méditation, la respiration, la relaxation sont des choses qui vont nous aider à contrôler.
Et les laitages aussi, je crois. Quel rapport avec les laitages ?
Alors là, sur les laitages, on entend beaucoup, il y a énormément d'études sur les laitages, il y a les pros et les contres. Je pense qu'il y a globalement autant de pour que de contre, et je pense qu'ici, on ne va pas arriver à résoudre.
Alors on l'a dit, parfois ça déraille du côté hormonal, et par exemple, il y a certains problèmes de poids qui sont causés par un dérèglement du côté de la leptine. Vous en avez un tout petit peu parlé avant, expliquez-nous ce qui se passe.
Alors la leptine, elle a été découverte à la fin des années 90. On s'est rendu compte qu'il y avait des souris qu'on connaissait, des souris très obèses, et on s'est rendu compte qu'elle manquait de leptine. Donc on s'est dit, bon bah ça y est, on a trouvé le gène de la leptine. Quand les gens ont des problèmes de poids, c'est qu'ils manquent de leptine. Eh bien non, en fait, la plupart du temps, c'est un problème de résistance à la leptine. En fait, plus vous avez du poids, plus vous avez de la leptine, et plus cette leptine, elle a du mal à agir. Donc elle est fabriquée par nos cellules graisseuses. En fait, nos cellules graisseuses, c'est pas du tout juste des choses qui ne bougent pas et qui ne font rien. Elles fabriquent tout un tas de substances, dont cette fameuse leptine. Et quand on est en surpoids, quand on a une mauvaise alimentation, quand on ne mange pas assez de légumes, pas assez de fibres, qu'on mange de la junk food, des aliments ultra transformés, des fast food, et ben cette leptine ne va pas pouvoir agir et ne va pas pouvoir faire son rôle de nous couper l'appétit, de réguler nos repas.
Mais justement, on n'a pas essayé de donner de la leptine aux gens qui mangeaient, enfin qui avaient besoin de perdre du poids.
Oui, mais en fait, ça ne marche pas. Il faudrait en donner des quantités faramineuses. C'est des injections, c'est un médicament qui a une très courte durée de vie. Enfin, ça ne marche pas
ça
très
marche
bien.
Pas. D'accord. Et dans les problèmes de poids, il n'y a pas que la leptine qui peut être en cause. Je crois qu'il peut y avoir aussi un souci du côté de la gréline. C'est qui celle-là ? Alors, c'est la cousine ?
Elle fonctionne un peu de manière coordonnée. Donc, elle est fabriquée au niveau de l'estomac et elle va jouer sur l'appétit. Donc effectivement, en jouant sur cette hormone, on va pouvoir modifier notre appétit. Donc par exemple, vous savez, on dit souvent, ou nos grand-mères, elles disent « bois un grand verre d'eau en début de repas, prends une soupe, ça va un peu
couper l'appétit ». Vous avez raison, nos grand-mères ?
Eh bien, elles n'avaient pas tout à fait tort. Il y a même des études où on a montré qu'en prenant un grand verre d'eau juste en début du repas, eh ben, on pouvait perdre 3 à 5 kilos sur plusieurs semaines. Incroyable. Parce qu'en fait, effectivement, ça va modifier nos taux de leptine. Les gens qui se font opérer de l'estomac, vous avez entendu parler, bien pour sûr, perdre du poids, les gens qui ont une obésité très sévère
qui
avec
font
un
des sleeves ou des bypass.
Voilà, c'est ce qu'on appelle. Et bien, ça va jouer notamment l'action de la perte de poids liée à cette chirurgie, joue en modifiant ces taux de gréline.
Bon. Il y a aussi, parmi les troubles hormonaux, ceux causés par un problème au niveau des hormones sexuelles. Comment savoir qu'on a peut-être un souci de ce côté-là ?
Alors, ça dépend des hommes et des femmes.
Oui,
alors,
déjà. On va chez les femmes d'abord.
Ouais. Chez les femmes d'abord. Donc toujours les femmes d'abord. Alors la première chose qui fait qu'on va se rendre compte qu'on a un problème au niveau de nos hormones sexuelles, c'est quand les cycles ne sont pas réguliers. Normalement, une femme, elle a des cycles à peu près toutes les 4 semaines. Alors quand je dis régulier, on peut avoir 2 ou 3 jours d'écart. On n'est pas obligé
d'être... Entre 28 et 35 jours, on va dire, quelque chose comme ça.
26 et 35 à peu près. Voilà. Mais au-delà, le fait d'avoir, de ne pas avoir ses règles pendant 2 mois, ou le fait pendant 3 mois, 6 mois, ça veut dire qu'on a un problème d'hormones.
Hormonal, oui.
Exactement. Donc là, il faut toujours aller chercher. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste, oh, bah, je vais prendre la pilule, comme ça va les réguler. Il faut aller comprendre pourquoi.
D'accord. Ça peut être aussi de l'acné ou la pilosité, je crois, chez les femmes, hein, qui montrent qu'il y a un souci sur les hormones
sexuelles. Exactement. Donc l'une des plus fréquentes, c'est par exemple quand on a trop de testostérone. Donc c'est une hormone masculine. Toutes les femmes ont un petit peu d'hormones masculines et heureusement, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir nous défendre. Mais quand on en a trop, eh bien nos cycles sont plus longs. On a plus d'acné, plus de pilosité.
Et chez les hommes, alors j'imagine que c'est des problèmes d'érection essentiellement ?
Exactement, des problèmes de libido, des problèmes d'érection. Donc pareil, on va chercher, est-ce que, des fois on dit ah bah c'est dans sa tête, ou c'est parce qu'il est vieux, ou
parce qu'il y a un problème hormonal.
Exactement,
en fait.
Donc il faut savoir, c'est une prise de sang, c'est très simple, on la fait le matin, c'est mieux de la faire à jeun.
Vous allez doser la testostérone en fait, c'est
ça ? On dose
la
testostérone, et éventuellement les hormones qui sont associées, donc les hormones qui commandent la testostérone, la FSH et la LH, désolé pour les mots un peu compliqués, une autre aussi, la prolactine, et on vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie.
Et parfois, en complétant ben justement avec peut-être un peu de testostérone ou quelque chose, on arrange les problèmes d'érection de certains messieurs.
Là, récemment, la Société française d'urologie a sorti des recommandations concernant le manque de testostérone, donc l'insuffisance en androgène chez les hommes, qui est probablement un peu sous-estimée et sous-évaluée. En fait, ça, alors autant la ménopause chez les femmes, c'est 100% des femmes, mais l'andropause, c'est à peu près 30% des hommes. Et donc, ça peut être intéressant parce que ça peut expliquer non seulement des troubles de la libido et de l'érection, mais aussi une fatigue physique, une fatigue mentale, des syndromes dépressifs, une perte musculaire. Donc, ça peut être aussi tout à fait important de le vérifier.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Lecornet-Socol, pour toutes ces précisions. On a appris plein de choses grâce à vous. Mais il y a encore beaucoup à dire, notamment sur tout ce qui tourne autour de la thyroïde. On vous réinvitera pour l'occasion. Ce sera une autre émission. Merci encore, en tout cas.